bienvenue dans ce cinquième épisode du Lama Project Podcast. Le Lama Project, c'est un laboratoire d'idées qui contribue à la transition des modèles économiques de stations de ski. Alors on précise toujours au début de nos épisodes, pour ménager certaines sensibilités, que nous ne sommes pas contre les stations de ski, nous ne sommes pas contre le ski alpin. Tout au contraire, c'est de là d'où on vient, c'est notre culture et c'est aussi surtout une passion parce qu'on adore le ski. On constate, comme beaucoup d'autres, que ce modèle économique installé dans les années 60 est menacé. Et ce sont ces dangers et ces enjeux que nous souhaitons évoquer avec nos modestes armes qui sont des micros, des idées, des discussions, des rencontres. Et nous pensons aussi et surtout que c'est en enrichissant nos visions du monde que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Pour cette fin de saison, de belle saison, nous vous proposons un numéro un peu spécial avec Pierre Josserand. Nous revenons aux sources avec l'un des derniers pionniers, créateurs, bâtisseurs de ces très grandes stations de ski que la France a su construire, notamment en Tarentaise, et qui sont devenus des fleurons au niveau mondial du tourisme de sport d'hiver. Pierre Josserand est l'un des principaux créateurs de la station de Val Thorens et aujourd'hui encore, président de la CETAM et de la STOR qui exploitent les remontées mécaniques côté Val Thorens et côté Aurel en Maurienne. Il a publié cet automne un livre de souvenirs sur la période de création de la station, c'est-à-dire les 3 années avant l'ouverture de la station qui fête d'ailleurs cet automne ses 50 ans. Le livre est intitulé « Val Thorens 1969-70-71, une vision, un combat ». Pierre Josserand a également eu la chance de travailler avec cet investisseur visionnaire et démesuré qui était Pierre Schnebelen, un Bernard Tapie de l'époque, si on devait résumer. Et le témoignage est absolument passionnant. Le mot de combat dans le titre n'est vraiment pas exagéré. L'auteur lui préfère cependant l'expression de singulière épopée créative. Alors Pierre Josserand n'est pas physiquement avec nous au micro, j'aurais aimé, mais il n'a jamais été amateur de l'exercice. Donc il sera avec nous à travers son texte, à travers des extraits de son livre qu'il nous a gentiment autorisé à citer pour ce podcast. Alors pourquoi c'est intéressant de revenir 50 ans en arrière? Parce que beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là, dans les conditions et dans le contexte de création. Tout simplement parce que, aussi, bien connaître l'histoire nous permet de mieux comprendre le présent. Bon d'accord, la palissade a gagné le prix international du cliché 2 années de suite. Mais les tensions et les faiblesses actuelles du modèle économique de nos stations de ski sont l'héritage de leur début. Il est donc passionnant de se replonger dans cette époque pour comprendre quelles conditions, par qui, avec quelles méthodes, avec quels objectifs, les stations de ski ont été littéralement sorties de terre en haute altitude. Alors commençons par un premier extrait du livre qui brosse la situation à la toute fin des années 60, c'est-à-dire les dernières années du plan neige, cette décennie de construction de stations de ski facilitée par l'État. Un mode de fonctionnement d'ailleurs unique au monde. On rencontre tout d'abord l'un des personnages clés de cette époque, Maurice Michaud. Polytechnicien, ingénieur des ponts, Maurice Michaud fut à l'origine de la création de la Commission interministérielle pour l'aménagement de la montagne en 1964, devenue en 1970 le SEATM, Service d'études et d'aménagement touristique de la montagne, basé à Chambéry, puis à Chelles-les-Eaux, avec pour mission d'établir le plan neige français, autrement dit de faire l'inventaire des possibilités d'aménagement en domaine skiable de nos massifs montagneux. La France avait un grand retard dans l'activité touristique des sports d'hiver sur ses concurrents autrichiens, suisses et italiens. Il s'agissait pour le gouvernement de le rattraper. Maurice Michaud, sous l'impulsion des plus hautes autorités de l'État, s'attela à la tâche avec passion et détermination jusqu'à sa retraite. Il fut conjointement avec l'architecte Laurent Chappie, l'auteur principal du concept de la station en site vierge, ski au pied. Outre son travail d'étude, il était en charge de trouver des opérateurs financiers et techniques capable d'assurer le développement des stations. La volonté des autorités publiques était alors de confier un site du plan neige à un promoteur aménageur unique pour la réalisation globale d'une station en altitude. Chaque candidat devait présenter son projet démontrant notamment l'équilibre assuré entre la capacité skieur du domaine skiable et le nombre de lits touristiques prévus. C'est ainsi que les stations nouvelles du plan neige français ont connu, notamment du fait de cet équilibre, un succès international. Équilibre menacé depuis quelque temps par la tendance inquiétante à l'élargissement des périmètres d'urbanisation touristique au détriment de la qualité des domaines skiables en termes de capacité des pistes. C'est le cas notamment avec les transports valéens dont les conséquences sur la qualité des domaines skiables seront, dans certains cas, préjudiciables. Chargé par Pierre Schneebelen, patron de la CEFCO, de créer la station de Val Thorens en 1969, le jeune ingénieur des arts et métiers, qu'est Pierre Josserand, est bien démuni face à l'ampleur de la tâche. Il découvre aussi les enjeux politiques du projet, notamment impliquant Joseph Fontanet, plusieurs fois ministre et alors maire de la vallée des Belles-Villes, commune où devait se situer Val Thorens et où avait déjà été construite 5 ans plus tôt la station des Menuires, qui connaissait des difficultés financières. On l'écoute. Joseph Fontanet, président du Conseil Général, était alors dans une situation politique et financière inconfortable. En effet, c'est lui qui poussait le département dans le développement du tourisme d'hiver en prévision du retrait progressif prévisible de l'industrie électrosidérurgique installée en Savoie. Le Conseil Général comptait alors parmi ses membres une forte opposition à la poursuite de cette stratégie sur les sports d'hiver, considérant que les efforts du département devaient être concentrés en priorité sur le maintien de l'industrie et sur le tourisme thermal. Il faut avoir conscience de l'âpreté du conflit au sein du département, conflit qui se poursuivit pendant de nombreuses années. Un conseiller général savoyard, ministre, sans doute très en colère, déclara en 1981 sur une radio nationale qu'il fallait donner ordre aux avions de chasse de raser Val Thorens. Les dépenses en infrastructures routières et diverses pour assurer le lancement des stations de Tarentaise étaient considérées par d'aucuns comme pesant déjà trop lourd dans le budget départemental. Qui plus est, le problème posé par les Menuires concernait la commune de Saint-Martin-de-Belleville, dont Joseph Fontanet était maire, ce qui faisait le jeu de son opposition politique. C'est dans cette ambiance conflictuelle que Maurice Michaud finit par conseiller à Joseph Fontanet la candidature de la CEFCO présidée par Pierre Schneebelen. Ce choix n'était pas évident. En effet, remplacer la Caisse des dépôts et consignations par un ingénieur, ne représentant que lui-même, ne faisant partie d'aucun groupe bancaire, financier ou industriel, n'apportait pas les garanties que le département était susceptible d'exiger. Les chances de succès étaient très discutées et nombreux étaient ceux qui étaient prêts à faire payer cher une stratégie considérée comme risquée. Joseph Fontanet, favorablement impressionné par le succès incontestable de Tignes et aussi par la pugnacité de Pierre Schneebelen, opta pour une négociation sur la reprise des Menuires avec la CEFCO. C'est à Tignes que Pierre avait su transformer la situation économique désespérée de cette station au début des années 60 en un succès international, sur un concept original du ski 365 jours par an. L'équipement du glacier de la Grande Motte, rendu accessible en 1968 par une télécabine débrayable PHB, le ski d'été sur ce glacier, la construction du hameau du Lavachet puis du Val-Claret, autant de succès incontestables réussis par Pierre Schneebelen. Cependant, l'acceptation de ce dernier de s'engager dans le projet Val Thorens fut conditionnée par une exigence imprévue. Rééditer son modèle de Tignes avec le concept du ski 365 jours par an dans les belles villes. Ce récent modèle démontrait que les amortissements des lourdes infrastructures d'aménagement étaient mieux assurés par une exploitation sur l'année. Les investisseurs pouvaient ainsi prétendre à une meilleure rentabilité de leurs actifs. En outre, les inconvénients liés à une activité saisonnière s'en trouvaient considérablement réduits. Ce concept d'aménagement ne pouvait pas se concevoir à partir des Menuires, situées à 1800 mètres d'altitude, mais logiquement sur le site de Val Thorens, à 2300 mètres d'altitude, au fond de la vallée des Belles-Villes, au pied des glaciers de Chavières et de Thorens, doués pour la pratique du ski d'été. Sur ces vastes glaciers, le ski d'été était promis à un grand succès, à condition d'obtenir notamment les autorisations des communes concernées territorialement, ainsi que celles du Parc national de la Vanoise, créé en 1963. Le Parc de la Vanoise, justement, il va peser lourd dans la négociation. Il était en grande partie situé sur la commune de Modane, dont le maire voulait sa station, Val-Chavière. Situation compliquée ? L'hiver 70 va en rajouter une couche de neige. Hiver 1970. La saison à Tignes commençait mal. Jusqu'à fin janvier, le faible enneigement dégrada considérablement l'offre du domaine skiable, et c'est le nouvel équipement du glacier de la Grande Motte qui sauva alors la situation. Mais à peine avais-je rapatrié ma famille sur Tignes qu'un phénomène climatique rare se déclencha en Tarentaise. et sur une grande partie des Alpes. Dès le 1er février, une tempête de neige et de vent d'une force inouïe se leva, isolant la station du reste du monde pendant un mois, nous obligeant à fermer toutes les remontées mécaniques. Plus de téléphone, route d'accès fermée, évacuation des résidences au Lavachet, dans le centre de Tignes et au quartier des Almes pour risque d'avalanche, confinement des habitants dans leur logement, y compris les quelques nouveaux propriétaires isolés au Val-Clairet, etc. Ce phénomène dura tout le mois de février sans discontinuer, avec plusieurs milliers de touristes et de permanents retranchés dans leurs appartements, évacués par convoi et par groupes réduits. À Val d'Isère, le chalet de l'UCPA fut percuté par une énorme avalanche en plein centre de l'urbanisation avec un bilan tragique, 39 morts. À Tignes, une navette de la STGM, l'exploitant des remontées mécaniques, société des téléphériques de la Grande Motte, fut bousculée par une avalanche dans le lac, 3 morts. Le quartier des Almes, évacué la veille grâce à la pugnacité du chef des pistes Michel Burnet, fut rasé par une avalanche. Pas de victimes, mais 11 immeubles détruits et des dizaines de voitures écrasées. La gare de la télécabine de la Grande Motte fut à son tour détruite, ainsi que toutes les cabines stockées dans le garage. Dès la fin de la tempête, vers le 1er mars, nous fîmes une reconnaissance en hélicoptère sur le site de Val Thorens pour étudier les impacts du phénomène. Ce fut un grand soulagement de pouvoir constater que les zones d'urbanisation prévues n'avaient pas été affectées par des parcours d'avalanche significatifs. Outre les tragédies humaines que connut la montagne cet hiver 1970, les retombées économiques et médiatiques de cette tempête furent lourdes de conséquences. Après ces événements catastrophiques, il fallut bien faire les comptes. Malgré une reprise de la fréquentation, au printemps 1970, et une activité du ski d'été satisfaisante, l'équilibre financier de la STGM s'était dégradé. Le marché immobilier en montagne marquait le pas du fait de la perte de confiance des acquéreurs, effrayés par les drames de la saison d'hiver. Aussi bien au niveau national que départemental, le principe même de la création de stations en altitude fut dénoncé par les médias, de nombreux élus, diverses associations et même les populations locales. Le projet de Val Thorens semble donc menacé et doit s'adapter à ce nouveau contexte. Un projet d'aménagement du domaine skiable, beaucoup plus modeste, fut mis au point à partir d'une première phase, se voulant économique, mais capable d'assurer la découverte de la plus grande partie du domaine skiable, ainsi que le raccordement aux Menuires et aux Trois-Vallées. Des remontées mécaniques donc peu nombreuses, mais longues et souvent peu confortables, furent sélectionnées dans notre plan neige pour répondre à un concept dicté d'abord par des conditions financières adaptées à la conjoncture, ce qui d'ailleurs nous fut reproché pendant de nombreuses années. L'heure n'était plus au gigantisme, ni sur les programmes immobiliers, ni sur les aménagements du domaine skiable, mais bien à la recherche de solutions techniques et financières rassurantes pour les financiers comme pour les politiques susceptibles de permettre la poursuite du projet de Val Thorens. Le miracle tant attendu se produisit au cours de l'année 1971. Ce fut comme si, dans un espace d'incertitude, les planètes politiques, administratives, financières et techniques finissaient par s'aligner. Certes, ces planètes n'avaient pas l'éclat de la vision première de Pierre Schnebelen, mais au moins, elles apportaient une suite positive à tous les efforts déployés depuis 1969. La suite de cette singulière épopée créative, pour reprendre les mots de Pierre Josserand, fait partie de l'histoire. Instinct et opiniâtreté politique, choix techniques judicieux, paris osés, construction du téléphérique de la Cime Caron par exemple, courage et inventivité des habitants et commerçants pendant les premières années permettront à Val Thorens de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, l'une des stations les plus prestigieuses du monde. Val Thorens n'est pourtant pas étanche aux problématiques que nous évoquons dans ce podcast sur l'avenir des stations de ski et du modèle économique des territoires. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et pour terminer, un grand merci évidemment à Pierre Josserand. Merci à vous d'être fidèle à ce podcast et rendez-vous au prochain épisode. Ce podcast est produit par Benjamin Blanc de la Régie des Pistes de la Vallée des Belles-Villes et Guillaume Desmures. Réalisation, Guillaume Desmures pour Murmure Studio. Mise en onde, Sébastien Pintiot pour Homework Studio. Musique, Jérémy Rassa. Diffusion, Clotilde Drouet.